Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. On dit que le rire est le propre de l'homme. Eh bien, par les temps qui courent, nous en avons bien besoin de rire, de s'amuser et puis aussi parfois de se moquer des grands ou des petits de ce monde, en tout cas de les caricaturer. Eh bien, une façon de se moquer d'eux, c'est bien aussi de se moquer de nous. La dérision, c'est bien, ça fait du bien, c'est une preuve d'intelligence. Pour rire, pour nous amuser et puis aussi pour parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître dans une société où l'on aseptise tout et où l'on veut tout boucler, tout cadrer, tout contrôler. Mon Dieu qu'il fait bon de parler d'un autre temps, disais-je, que les moins de 20 ans ne peuvent toujours pas connaître, où l'expression était plus facile, où l'on pouvait rire de tout. Quelqu'un a dit qu'il faut se dépêcher de rire de tout, de peur d'avoir à en pleurer. Eh bien, sans transition et rapidement, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir l'un des maîtres de ce bel adage, Monsieur Jacques Maillot. Bonjour Jacques Maillot.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour votre ouvrage « Le sourire en coin » aux éditions de Boré. Alors, je suis sûre que pour la plupart de nos auditrices, auditeurs, on ne vous présente plus. Je suis sûre que pour certains, vous rappelez de bons souvenirs. Alors, j'ai envie de commencer pour parler de vous. D'abord, vous êtes né en Auvergne, donc Auvergnat d'origine.
Oui, Auvergnat d'origine. Je suis né à Rion, dans le Puy-de-Dôme. Oui. Qui est une ville de magistrature,
oui.
Et qui a eu comme passé le célèbre procès de Rion, qui réunissait tous les responsables de la Troisième République.
Mm-hmm.
Et j'ai fait donc mes humanités à Rion, et j'ai passé mon baccalauréat au lycée, oui, Blaise Pascal à Clermont-Ferrand.
Mm-hmm. Alors, en parlant de baccalauréat, il y a eu un moment de votre vie qui vous a beaucoup ému parce que vous vous êtes dit, ben moi, le petit Auvergnat venu de mon Auvergne profonde avec un baccalauréat en poche, j'ai cet honneur qui m'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012, un coup de fil qui vous a beaucoup ému?
En 2012?
C'est pas 2012? L'Académie des 100?
Ah oui, ça c'est autre chose, oui, effectivement, c'est comme ça que je commence le livre,
oui.
C'est le Club des 100,
le Club des 100, oui,
qui m'informe que je suis admis au Club des 100, qui est une sorte de club élitiste,
oui,
qui réunit des amateurs de gastronomie, mais qui surtout a pour but de réunir, disent-ils, le meilleur de chaque profession. Donc c'était un honneur pour moi, avec mon petit baccalauréat, de me retrouver aux côtés de gens qui sont des bac plus 12, des énarques, des inspecteurs, ouais, des finances et autres polytechniciens.
Mais on sent que ça a été un moment émouvant et important de ce moment de vie. On le sent quand vous le racontez.
Tout à fait. Tout à fait, parce que c'est une sorte d'aboutissement d'un long parcours. Je me suis retrouvé là un peu par hasard grâce à Philippe Bouvard.
Oui.
Et j'avoue que pour moi, je ne m'imaginais pas un jour rejoindre ce genre de cénacle.
Oui. Alors le monde des chansonniers, j'ai envie de dire que c'est un petit monde bien particulier qui, je ne dirais pas qu'il a tendance à disparaître, mais les esprits que vous pouviez avoir, vous et les Bouvard, les Amadou et autres, ont tendance un peu à disparaître. Je me souviens de ce que vous m'avez dit la dernière fois, on parlait des grosses têtes auxquelles vous avez participé de nombreuses années. Quand je vous ai demandé ce que vous en pensiez, vous m'avez dit aujourd'hui c'est du niveau du salon de coiffure. Et c'est vrai que ça n'a plus le panache qu'il y avait quand vous y étiez, vous et tous vos acolytes.
Oui, c'est vrai que le niveau a terriblement baissé. Philippe Bouvard était un maître,
oui,
de cérémonie exceptionnel,
oui,
avec une énorme culture, bien qu'autodidacte.
Oui.
Philippe avait un esprit exceptionnel,
oui,
et donc l'émission était extrêmement bien tenue parce, oui, qu'il avait un panel de gens tout,
oui,
à fait exceptionnels.
Bah, les Jean-Yann, les Desproges, les gens du Tour, les Jacques Maillot.
Oui, c'est ça, oui. Que des gens de très très bon niveau, et,
oui,
donc il réunissait le meilleur. Ce qui qui n'est plus le cas aujourd'hui. Philippe Bouvard n'a jamais hésité à inviter des gens qui pouvaient lui être supérieurs dans bien des domaines. C'était le cas de Jean Dutour, qui avait une culture encyclopédique.
Incroyable, oui.
En matière d'humour, Jean-Yann était un...
C'était un maître.
C'était un grand, grand bonhomme. Et je crois qu'évidemment... aujourd'hui, ça n'est plus le cas, ne serait-ce parce que peut-être que les nouveaux responsables des grosses têtes ne réussissent pas à retrouver la même qualité de panéliste. C'est peut-être ça aussi.
Pourtant, il y a encore de grands esprits, mais peut-être ont-ils autre chose à faire. Ils ne veulent peut-être plus participer aussi.
Et
peut-être.
Puis, quand on voit le niveau des sujets, c'est-à-dire que... Derrière la gaulouiserie et la gaudriole, Philippe Bouvard maintenait un haut niveau intellectuel, il y avait une tenue, il y avait plein de choses, ce qui n'est plus le cas. Là, on est vraiment, c'est triste à dire, on est du niveau du salon de coiffure. On raconte ces petits malheurs du quotidien qui n'intéressent pas forcément, malheureusement, le grand public.
C'est vrai. Et même les sujets d'actualité qui pourraient être bien faits à la façon chansonnier ou humoriste, je trouve que, mais ça n'engage que moi, je trouve même ça que c'est maltraité, c'est mal fait, c'est mal...
Oui, c'est maltraité, parce que c'est pas traité avec drôlerie.
Non.
Aujourd'hui, on règle des comptes, alors que le but d'une émission comme Les Grosses Têtes, c'est avant tout de faire rire les gens.
Oui, mais ils n'arrêtent pas de s'engueuler, on a l'impression qu'ils n'arrêtent pas de s'engueuler en plus.
Oui, c'est
pas terrible. Alors, un moment important de votre vie, c'est en 1975, L'Oreille en coin, vous y avez travaillé 17 ans.
Oui.
Avec un couple, il y a Pierre, ça y est, j'ai oublié son nom.
Il y a un tandem exceptionnel. Pierre Codou et Jean Garetto.
Il y en a un qui est d'origine sicilienne, qui est Jean Garetto, un aristocrate d'ailleurs d'origine sicilienne, qui est aristocrate. Oui. Deux personnages, un tandem extraordinaire. Et vous allez œuvrer sur cette antenne pendant 17 ans, en caricaturant les grands hommes et les petits hommes de leur temps, à la manière des chansonniers. En parlant de l'actualité à votre façon, toujours avec cet humour pointu et mon Dieu, ô combien brillante. Ça a été un grand moment de votre carrière.
Oui, parce que ces deux personnages-là étaient tout à fait remarquables. C'était des grands producteurs de radio.
Oui.
Et je crois qu'ils m'ont appris d'abord à faire de la radio et surtout ils m'ont appris à équilibrer mon propos, à ne jamais tomber dans l'excès, dans la vulgarité. Jean Garetto ne supportait pas la vulgarité. Pierre Codou, qui avait une énorme culture, parce qu'il était un ancien hussard de la République, il avait enseigné. Donc ces gens-là ne supportaient pas à peu près la médiocrité. Donc il fallait toujours que nos textes soient de qualité. Mmh. Et quand ils ne l'étaient pas, ils savaient nous remettre très très vite sur les rails.
Mmh. Bah oui, ce qui était pas plus mal, oui.
Ouais, ouais. Mmh. Et donc avec ces deux personnages-là, j'ai pu côtoyer à l'antenne de France Inter le Gotha de la politique et de la littérature, et ça c'était tout à fait formidable.
Oui. Et des rencontres aussi importantes, de belles amitiés, des rencontres, je vous lisais, comme Valéry Giscard d'Estaing, Lino Ventura, quelle chance, enfin voilà, tous ces personnages, c'est vrai que Lino Ventura, moi l'homme je ne sais pas, mais l'acteur en tout cas, on peut sentir l'homme derrière l'acteur, parce que je pense que ça ne faisait qu'un, mais tous ces personnages rencontrés, Jacques Brel aussi, vous avez eu cette chance-là aussi. Il y a de belles photos aussi, je disais, dans le centre du livre aussi, avec de belles rencontres. Ce sont des choses qui marquent à jamais, qu'on est imprimé de ces rencontres-là, de toute façon.
Oui, je pense. Je pense que des personnalités fortes comme François Mitterrand, que j'ai bien
connu aussi. François Mitterrand,
Comme Valéry Giscard d'Estaing, comme Jacques Brel ou Ventura, c'est des personnalités qui vous marquent.
Bien
d'ailleurs, il y avait un point commun, moi, qui m'impressionnait entre Mitterrand et Giscard d'Estaing, c'est que lorsque ces gens-là rentraient dans un lieu, dans une salle, on sentait qu'il se passait quelque chose.
Ils remplissaient la salle.
Ils remplissaient la salle. comme Lino Ventura remplissait l'écran,
oui.
Comme Jean Gabin, comme tous ces gens-là.
Bien sûr. Est-ce que vous, l'humoriste, le chansonnier, l'érudition aussi que vous aviez, parce que pour faire ce métier, je pense qu'il faut une grande culture, une érudition et puis une forme d'humilité, ils étaient abordables. Est-ce que c'était facile?
Oui, c'était assez curieux. À part Mitterrand, qui était un personnage assez froid,
oui.
Mais qui pouvait, derrière sa froideur, être extrêmement attentif aux autres et,
oui.
Et avoir beaucoup de... Moi, je l'ai vu avoir beaucoup d'humanité, d'amitié pour des vieux amis à lui qui étaient dans la difficulté.
Oui.
Alors, c'était pas un homme qui s'est penché, bien sûr, mais... C'était un homme qui était à l'écoute des autres. Et ça, je crois que c'était le point commun de ces gens qui, sous des aspects, Giscard, un aspect intellectuel de très haut niveau, on aurait pu appréhender une certaine condescendance. Ça n'était pas le cas.
Mm-hmm.
D'abord, Giscard adorait rire.
Oui.
Et il adorait venir au spectacle aux Deux Ânes.
Oui.
Il est venu faire l'oreille en coin avec le même plaisir. Il nous avait même proposé de revenir. Donc,
oui.
Ça prouvait que ça lui plaisait. Et c'était un personnage tout à fait abordable. Et c'était des gens faciles. Je crois qu'aujourd'hui, les politiques qui sont en grande difficulté,
oui.
Comme on le sait, ferait bien de s'inspirer de ces gens-là,
oui.
Qui étaient vraiment à l'écoute de leurs contemporains et de leurs compatriotes, malgré leur énorme passé et leur parcours politique exceptionnel.
Oui. Dans l'oreille en coin, entre la caricature, l'explication de la politique d'une manière toujours très correcte, mais parfois, voilà, ils étaient un petit peu piqués. Ils tenaient compte, on a l'impression, en vous disant, qu'ils tenaient un petit peu compte que ça. C'était, vous aviez un petit peu leur oreille, si je puis dire.
Oui, tout à fait. Ils appréciaient qu'on puisse les brocarder.
Oui,
C'était dans... je crois qu'ils avaient un haut sens de la démocratie et de la liberté d'expression. Aujourd'hui, on est dans l'invective et la querelle, voire pire. C'était pas du tout leur cas. C'est-à-dire que si on leur disait quelque chose qui ne leur plaisait pas, ils pouvaient vous le faire remarquer, mais ils n'entraient pas pour autant dans le conflit.
Oui, dans la procédure presque.
Aujourd'hui, il y a ce matin un très très beau papier sur la République des juges dans un grand quotidien. Je crois qu'on en est là, c'est-à-dire que tout le monde veut juger tout le monde. C'est inquiétant, quoi.
Oui. Alors, l'homme de radio a été aussi un homme de télévision. Catherine Anglade vous a un jour contacté, je crois, si je me souviens bien, la lecture du livre, parce que Jean Amadou voulait un peu quitter, voulait faire autre chose.
Oui.
Et donc, on vous a proposé aussi d'être un homme de télévision, si je puis dire.
Oui, c'est ça. C'est comme ça que j'ai débuté par la grande porte directement,
puisqu'elle
m'a offert le 13h30, 14h15, le dimanche sur TF1, qui était une exposition tout à fait énorme, puisqu'on devait faire 12 à 15 millions de téléspectateurs. Et c'était, comme il n'y avait que 3 chaînes de télévision, on était vraiment, du jour au lendemain, on était propulsé dans le quotidien des Français.
Et surtout un dimanche, c'était un bon créneau en plus.
Ah, c'était un énorme créneau, c'est-à-dire que les gens, il y avait le déjeuner du dimanche,
et
nous regardaient à table en gros.
Et
donc on rentrait directement dans la famille des téléspectateurs. Et aujourd'hui, j'ai encore des gens qui me disent, moi je vous regardais chez mes parents ou mes grands-parents le dimanche et je vous ai connu, j'avais 8 ans, 10
c'est
ans.
Ça.
Quoi, voilà.
Vous savez, Jacques Maillot, en vous le disant, je pensais moi aussi à ces émissions, je me rappelle de votre voix et avec vos contemporains. Et pourtant, j'étais petite et plus jeune, mais il y avait ce plaisir. Aujourd'hui, on cherche la culture, on cherche le bon mot, on cherche quelque chose de bien. Et dans ce magma d'informations dans lequel nous sommes noyés au quotidien, eh bien, je trouve que c'est difficile et ô combien ça fait plaisir de parfois d'entendre sur certaines radios vos voix qui véhiculent encore de la culture, du bon sens, de la gaieté, de l'humour, mais de manière intelligente. Et ça manque.
Oui, c'est vrai que aujourd'hui, on est dans la compétitivité, ouais. La compétition permanente.
Ouais.
Ça se sent chez les jeunes humoristes, chez les humoristes d'aujourd'hui. Mmh. On sent qu'ils sont en compétition, alors que nous, on était en complicité,
oui.
Et on jouait en équipe. Mmh. Et je pense que la multiplication des one-man shows et des stand-up est vraiment le symbole de ce que nous vivons. On est dans l'individualisme forcené. Mmh. Avant, on avait des troupes. Il y a eu la troupe du Splendide, il y a eu avant nous les Branquignols, de Robert Derry. Mmh. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Mmh. On est dans l'individualisme. Je pense que c'est une des grosses maladies de notre époque.
Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'humoristes à votre époque, si je puis dire. C'était ciblé, c'est-à-dire que les humoristes, on les reconnaissait. Les Fernand Reynaud, les Robert Lamoureux, comme vous dites, les Branquignols, on savait. Là, on est noyé dans une espèce d'humour. Alors, des fois, c'est pas toujours très fin, pas toujours très drôle, et on sait plus qui est qui. Vous voyez, quelques-uns qui ressortent, mais alors les autres, c'est très bien les petits théâtres, il faut de la place pour tout le monde, mais j'ai l'impression que trop c'est trop, et au bout d'un moment, on sait plus.
On assiste à une avalanche d'humoristes, c'est-à-dire que l'époque n'a jamais été aussi triste et aussi lugubre et aussi conflictuelle.
C'est vrai.
Et parallèlement, on a des humoristes qui souvent ne font pas rire, et qui se s'érigent humoristes. Et ça me rappelle un sketch très très lointain que j'avais écrit il y a très longtemps. C'était l'histoire d'un clown qui ne faisait pas rire.
Ouais.
Et il y avait quelques intellectuels qui trouvaient ça génial. Et je crois qu'on en est à peu près exactement au même point.
Ouais, oui.
Et il y a surtout le problème du nombre. Ce que vous venez de dire est tout à fait pertinent. Je pense qu'on ne découvre pas un Coluche, un Fernand Reynaud, un Raymond Devos tous les matins. S'il y avait autant de talent qu'on veut bien nous le faire croire, ça se saurait. Mais malheureusement, on voit que ça n'est pas le cas.
Et on a
en face de nous ce que j'appelle des humoristes éphémères qui durent l'espace d'une averse et puis qui disparaissent, quoi.
Pourtant, le théâtre de Jamel Debbouze, c'est pas mal ce qu'il fait à Marrakech. C'est bien, mais alors, il a ses copains et finalement, moi je suis assez contente de revoir toujours les mêmes parce qu'au moins on s'habitue et on s'habitue à un rythme de phrases et d'humour. Mais après, quand il y en a plusieurs, après on ne sait plus, quoi. Voilà, c'est dommage. Mais ce qu'il fait, c'est pas mal. Enfin, je trouve que c'est pas mal.
Dans le lot, il y a des gens exceptionnels.
Oui.
Mais le problème, c'est qu'ils sont noyés par le nombre.
On est d'accord.
Et je pense que, et c'est ce dont souffrent les métiers du spectacle aujourd'hui, c'est qu'on veut faire croire à tous ces gens-là qu'ils ont du succès. Mmh. Donc, pour leur faire croire ça, on remplit les salles à coups d'invités ou de tarifs bradés, comme même les compagnies aériennes low cost ne le font plus depuis longtemps.
Mmh.
Et donc, on a des fausses valeurs.
Mmh. C'est vrai.
Aujourd'hui, on remplit les salles à coups de remises, de tarifs bradés. Et ces jeunes humoristes, malheureusement, ont un avenir sans lendemain.
Oui. Des fois, même, on regarde avec nos amis ou la famille, on se dit, on ne le connaît pas, celui-là, on se dit, mince, on est has-been, on n'est même plus à la page, on ne sait même pas qui c'est. C'est terrible. Pour eux, c'est terrible pour la culture en général. Alors, l'homme de radio et l'homme de télévision, mais le théâtre aussi, vous avez été un petit peu pris comme ça dans ce tourbillon, mais le théâtre des deux ânes était là pour vous rappeler que le plancher du théâtre était fait aussi pour vous, donc le théâtre des deux ânes, ce théâtre de chansonniers à Paris où les gens Amadou, les Jean-Marc Thibault ont sévi, ainsi que les Jacques Maillot, c'est une véritable institution, le théâtre des deux ânes.
Oui, c'est une institution qui est centenaire, qui a été créée en 1921 et qui a vu défiler, comme vous venez de le rappeler, le meilleur des humoristes, des chansonniers. C'est Pierre Dac qui s'y est produit à ses tout débuts et qui a donné le là, en quelque sorte, puisqu'après tout le monde a... Tous les grands défilés là, Jean Rigaud,
Pierre-Jean Vaillard,
Pierre-Jean Vaillard, bien sûr, Jacques Baudouin,
Jacques Baudouin.
Voilà.
Anne-Marie Carrière, etc.
Ah, et la grande Anne-Marie Carrière, bien sûr.
Ouais, ouais.
Donc, on peut dire que c'est effectivement, c'est un lieu tout à fait exceptionnel, mais qui risque de s'éteindre, malheureusement, parce que, d'abord, il y aura des problèmes de normes.
Oui. C'est un tout petit théâtre, hein,
C'est un tout petit théâtre qui a 300 places, mais qui a une toute petite scène, et donc qui ne correspond peut-être plus aujourd'hui à ce que les producteurs et les artistes veulent. Donc, il est possible que ce théâtre... un jour viennent à disparaître, bien qu'il soit classé.
Oui.
Je pense que il peut disparaître.
Ça, ce serait bien dommage. Alors, je disais, l'homme de radio et télévision a rejoint les planches, mais vous avez commencé par les planches, finalement.
Oui. J'ai démarré au cabaret L'Échelle de Jacob, rue Jacob, dans le 6e arrondissement, qui est le cabaret qui a vu débuter Jacques Brel et tant d'autres personnes. Fernand Reynaud y a fait aussi ses débuts. Moi, j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec des gens comme Maurice Fanon, gens de très, très, très grande qualité. On a démarré ensemble à L'Échelle avec Marie-Paul Bell.
Il y a
un très gros et beau passé. Moi, j'ai une photo de L'Échelle de Jacob dans les années 50 où il y a Charles Aznavour qui chante et Gilbert Bécaud qui l'accompagne au piano.
Ça, c'est génial. Génial. Ouais. Ça, c'est des moments rares et c'est tellement rare. Est-ce que, malgré tout, on le disait, on ne va pas revenir sur le sujet, mais qu'aujourd'hui, on est un petit peu toyé dans la masse des humoristes, mais vous qui avez travaillé dans ce milieu, qui avez côtoyé tous ces gens-là, est-ce que, et puis dans ce monde, on disait aseptisé, où plus rien n'est autorisé, comme je disais, il faut se dépêcher de rire de tout, de peur d'avoir en pleuré, malgré tout, vous arrivez à y trouver votre compte, à imposer quand même encore votre patte, votre trace. Vous y arrivez encore ?
Oui, j'y arrive encore, mais de moins en moins, parce qu'effectivement, on est cerné par la convenance, par, comme vous le disiez...
Le politiquement correct ?
Oui, bien sûr, le politiquement correct, par cette société qui veut tout régenter, qui veut tout calculer, qui veut faire croire que nous ne sommes pas ce que nous sommes.
Oui.
Je pense au wokisme, à tous ces mouvements absolument décadents et désespérants. Donc c'est de plus en plus difficile de maintenir cette liberté d'expression et de ton qui nous permettait de tout dire et sans jamais pour autant agresser les gens.
Bien sûr.
Je crois qu'on a perdu cette légèreté, c'est effrayant. Aujourd'hui, tout n'est que pesanteur, tout est lourd, pesant, écrasant. C'est ça qui est inquiétant.
Est-ce qu'on peut plus dire la même chose ? On ne peut plus se moquer de tout non plus ?
Ah ben non, bien sûr que non, puisqu'il y a le corporatisme, il y a le communautarisme, et tout ça vous crée des barrières. Donc, avant, on se rappelle ce que Jean Garretto me soulignait quelquefois à l'oreille en coin. Il me disait, faut arrêter vos curtonneries parce que je me moquais souvent de la religion catholique, et qui pourtant était la mienne. Avec Patrick Burgel, dont le papa était rabbin, on n'arrêtait pas de plaisanter sur la religion juive.
Mais la dérision, c'est une preuve d'intelligence.
C'était formidable. Et on s'entendait évidemment comme la roue en foie. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, puisque on vous attaque, on vous dit que vous êtes intolérant, alors que ceux qui vous attaquent, ce sont eux les intolérants. Ce ne sont pas nous, malheureusement. Donc, on est dans cette société que je qualifie de lourdingue.
Complètement, on est d'accord. Est-ce que si aujourd'hui on vous invite aux grosses têtes, est-ce que vous iriez, Jacques Maillot ?
Oh, j'irai
Pour le souvenir.
Pour le souvenir, j'irai faire une émission, mais ça s'arrêterait là, parce que c'est ce que je dis un peu dans le livre. Quand vous avez été habitué
aux grands esprits,
à la cuisine de Joël Robuchon,
oh là là,
de Savoie,
oh là là,
et qu'on vous emmène dans un, je ne vais pas dire un
À Bouge.
McDonald's. Bon, voilà. C'est, donc, voilà, j'aurais pas grand plaisir à y participer. Ouais. Ouais. Alors que c'était avant une véritable, c'était un plaisir, c'était une récréation. On avait vraiment l'impression de se retrouver comme des gosses en train de nous faire des niches, de présenter, de voilà. Et là, je pense que j'aurais pas, puisque j'y suis allé quelques fois, et c'est là que j'ai senti qu'il fallait tourner la page. Il y a des moments où il faut savoir dire, ça y est, c'est fini, on passe à autre chose.
Est-ce que, malgré tout, vous avez des relations avec les nouveaux humoristes ou certains qui marchent bien, comme les Gad Elmaleh ou les Florence Foresti ou les gens comme ça? Est-ce que vous avez des contacts avec eux?
Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est un autre monde, quoi.
C'est un autre humour, c'est différent.
C'est un autre humour. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'ai beaucoup de considération pour eux.
Bien sûr.
Voilà.
Ils vous posent des questions si vous les rencontrez. Ils vous demandent de raconter des anecdotes ou comment c'était avant
quelquefois,
ou les rencontres.
Quelquefois, absolument.
Ça peut quand même, ça peut quand même les intéresser, malgré tout.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Alors, je disais cette belle et longue carrière, mais vous êtes encore tout jeune, hein, voilà.
Ouais.
Ce qui est important, c'est ce que nous avons dans la tête. L'humour, ça permet aussi de garder, comment dirais-je, les pieds sur terre, de garder un certain regard sur la vie, et puis surtout de ne pas se prendre au sérieux, ça aide.
Ah oui, ça aide beaucoup. Je pense que ça aide à traverser la vie et l'existence et affronter justement tout ce qu'on doit affronter aujourd'hui. Je crois qu'il faut le prendre avec beaucoup de recul et puis d'humour. Sinon, effectivement, on peut se rendre malade et on n'est pas là pour se rendre malade.
Tout à fait.
Donc, ça permet vraiment, je pense que l'humour est un médicament.
Ah oui, fabuleux, tout à fait. Oui. En tout cas, j'espère que nos auditrices et auditeurs garderont toujours ce sourire en coin grâce à vous, Jacques Maillot, avec ce très, très livre très sympathique, bourré d'histoires, d'anecdotes. Je laisse au soin à chacun de le découvrir aux éditions de Boré. Ça a été un plaisir de vous rencontrer, de parler de tout ça, parce que moi, c'est un monde aussi que j'ai côtoyé, que j'apprécie. Et puis, le rire, c'est très important. Merci.
C'est important.
Portez-vous
merci
bien.
Infiniment.
Et puis, j'espère à une autre fois pour un autre livre.
À très bientôt.
Merci Jacques Maillot. Merci,
au revoir. Merci de votre accueil sur votre antenne.
Avec plaisir. Merci, au revoir.
Au revoir.
Quant à nous, nous nous retrouvons pour une autre émission. N'oubliez pas que le sourire, c'est important. Et puis, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.
Jean Garretto, Pierre Godou vous propose l'oreille en coin. Ceux qui ont l'humour entre les oreilles, l'oreille en coin en direct sur France Inter jusqu'à midi avec bien entendu la complicité de tout ce public du studio 105. Et l'oreille en coin dimanche matin vous est présenté par Maurice Torg, Jacques Maillot, Pierre Sacca, Chantal Galia
et Françoise Morasso.
Bien sûr, comme on dit, hein, Pierre. Eh bien, aujourd'hui, effectivement, nous avons une très très belle affiche. Nous avons réussi à choper Charles Aznavour, ce qui n'est pas très facile. Il fait toujours des tournées dans le monde entier.
Potée auvergnate.
Mais
vous
on va
allez
grossir.
Pouvoir faire apporter la recette, non pas du tout. Il y a une calorie par potée.
Dans sa nouvelle grille, France Inter souhaitait conserver l'oreille en coin du dimanche matin, l'une de ses émissions les plus populaires, mais comptait supprimer en revanche la tranche du dimanche après-midi. Réponse de Jean Garretto, le producteur des deux émissions, c'est tout ou rien. Chantage inacceptable, répond Pierre Bouteiller. Résultat, l'émission risque bien de disparaître.
Même pas. Il y a 5 millions de personnes qui chaque dimanche nous écoutent. Je pense qu'il serait pas très très bon, ni pour nous, ni pour France Inter, de traiter ces gens-là par-dessus la jambe.
Depuis 6 ans, les hommes politiques participaient à l'émission et certains, comme Gaston Defferre, Giscard d'Estaing ou Louis Philibert, s'étaient révélés très brillants. En tout cas, cette brouille intervient au mauvais moment pour la direction de France Inter, plusieurs vedettes quittant la station. Pierre Bouteiller doit annoncer bientôt l'arrivée de grands noms et pense que la mobilité est nécessaire dans l'audiovisuel.
Un métier où l'on bouge, on passe d'une heure à l'autre, d'une chaîne à l'autre, on fait un livre, on fait une émission de télé, on fait un film, on fait une émission de radio, ça change. Et ceux qui l'ont compris sont des grands professionnels. Ceux qui pensent qu'ils sont titulaires d'une sorte de, de bail amphithéotique, pourquoi pas transmissible aux descendants d'une émission, je crois que cela se trompe.